Cette semaine, je voulais faire une chronique. J'aurais voulu parler de ce sentiment vertigineux propre aux infos, en particulier en cette période. C'est qu'à plein de moments, surtout quand j'écoute les médias du grand dehors, que je m'inflige un journal télé ou au taf, j'ai des phrases qui viennent dans ma tête. J'aurais dû les écrire. J'aurais voulu, en quelques pages, dire quelque chose des injonctions paradoxales, de ce confinement, déconfinement, renforcement du contrôle et de la répression. De ce que je considère les conneries diverses et variées sur lesquelles on débat de langue, quand on n'en peut plus de se taire. Entre le corona qui n'existe pas, c'est un complot de je sais pas qui, Raoul t'a dit, ou sur d'autres sujets, il n'y a pas de race humaine, nous avons tous le même sang. J'aurais voulu parler de la difficulté à s'ancrer et être centré, individuellement et collectivement, de l'injonction du retour au travail, de l'Europe, en particulier occidentale, qui fait semblant, jusqu'à cette semaine, que le pire est passé, alors que la pandémie ne cesse d'évoluer en de plus en plus de cas, de plus en plus de morts, de plus en plus de crises alimentaires, de crises en tout genre, d'enfermement, de constitutionnalisation et renforcement du contrôle social, militaire, policier et des répressions en tout genre. J'aurais voulu articuler tout ça avec les enjeux de classe et de race et de propagande du capitalisme qui fait qu'on nous parle de consommation à tout va, qu'on assiste à la médiatisation massive des soulagements de certains et de certaines qui s'enjaillent devant des DJ sets, planifient leurs vacances, marronnent parce que leur all-inclusive au Portugal ne serait peut-être pas si fun en vue des nouvelles des derniers jours. Cela aurait permis de dire un mot sur comment on nous parle des abattoirs allemands, du fait que la Chine serait en train de nous mentir, mais comment il a été. Il est toujours extrêmement difficile d'avoir des infos sur l'évolution en France. Par exemple, sur la crise sanitaire d'un point de vue des travailleuses et des travailleurs saisonniers, qui sont autour de 13 000 personnes, ne serait-ce que dans les Bouches-du-Rhône. Ou bien de nouvelles transmissions constatées, en particulier chez des enfants dans plusieurs arrondissements de Marseille. Et si j'aurais su, ça aurait été l'occasion pour dire la fatigue et l'effort qu'il faut fournir pour continuer à vivre, individuellement et collectivement, dans une approche de réduction des risques réfléchie et consentie. Comme au travail, avec les protocoles bidons, toujours des injonctions paradoxales, le manque de moyens et la richesse des interdits, et la somme des humains et des humains que nous sommes. Mais aussi dans nos réseaux, où on commence à paraître complètement toqué et psychorigide, parce qu'on ne fait pas de grandes accolades en manif, on ne claque pas de bises et non, on ne partagera pas de verre. Pour cela, il aurait quand même fallu glisser un mot sur l'hypervalidisme ambiant, même dans les réseaux politisés autogérés, et de comment, féministiquement, on a l'impression d'avoir assisté au grand échec, encore une fois, de la politisation du travail de care et de la vulnérabilité. On a beau dire ce qu'on veut, ça ouvre plein de questions sur nos propres tendances individualistes. J'aurais voulu raconter comment certaines s'exposent au risque essentiellement pour aller au travail, prendre le transport ou manifester. Et j'aurais voulu articuler de manière entendable et synthétique tout ça avec le rythme effréné de la médiatisation des violences policières, des meurtres policiers, des crimes racistes et de la médiatisation qui va avec des mobilisations et des luttes actuelles. Ça m'aurait permis de dire la colère qui monte, entendre les avis divers et variés, dans les médias comme dans la vie de tous les jours. Comment il est fastidieux d'entendre la profusion d'émissions et d'approfondissements sur l'histoire du racisme aux États-Unis et les luttes pour l'émancipation des Noirs et des Noirs, partout, sauf en France. J'aurais voulu situer aussi tout ça dans l'histoire qui dure depuis plusieurs siècles, des crimes négrophobes, de leur institutionnalisation, de comment ils ont servi de fondation à toutes les formes de pouvoir actuelles et depuis comment, depuis tous ces siècles, il y a des luttes et il y a de l'émancipation. Je n'ai pas réussi. Alors bon, je me suis dit que j'aurais peut-être pu faire une chronique plutôt sur les élections municipales, sur le système pourri qui fait qu'il n'y a que 3 personnes sur 10 parmi celles qui ont le droit d'aller voter, qui voient un intérêt et qui y vont. Ça aurait permis de parler des malversations. Et ça aurait peut-être pu faire un pont avec les malversations, les abus de pouvoir et les trafics d'influence en tout genre. On en entend parler en coup d'éclair. Et ici, aux infos de 12h30, de temps en temps, on en choisit quelques-uns et on en dit quelque chose, un instant T. Je me suis rendu compte que j'étais trop fatiguée pour arriver à faire ce que je voulais. Alors je me suis dit, tiens, je pourrais parler de la fatigue. De celles qui ont travaillé comme des malades pendant le confinement. De celles qui sont passées de l'enfermement seules pendant des semaines à travailler comme des oufs dès le 11 mai. De celles qui, encore aujourd'hui plus qu'avant, se démènent pour que les leurs puissent manger à leur faim et avoir un toit sur la tête. La fatigue de ne pas arriver à faire un pas de côté, prendre le temps pour vivre ses deuils. La fatigue de celle qui craque, en perd le sommeil, le souffle et parfois la boule. De la fatigue de constater qu'on n'en est pas encore en mesure de faire ce qu'on voulait faire après le premier confinement. Se poser, collectiviser, réfléchir, se préparer, résister, s'organiser différemment la prochaine fois et dire quelque chose. Des privilèges, des différents replis entre couples, campagnes, résidences secondaires, etc. Parce qu'entre-temps, le monde est toujours pourri et tout va très vite. La fatigue d'imaginer qu'on sera très probablement à nouveau confiné avant qu'on puisse s'y préparer. Bon, j'aurais aimé aussi que ma petite chronique soit rythmée, qu'il fasse un peu sourire et qu'il dise aussi des choses de tout ce qui nous fait tenir, de tout ce qui donne espoir, des luttes qui marchent, des réussites de l'autogestion et de la force de certaines et de la détermination d'autres. Oh, cette semaine, j'ai pas réussi. Alors j'ai fait comme j'ai pu. Au risque que ça sonne dans vos oreilles comme les chroniques qui nous cassent la tête sur certaines radios dans les coups de 9h-10 le matin. C'est comme ça faire les infos. Parfois, on a du mal à s'accrocher un truc dans le vertige.
Pourquoi ai-je besoin de m'acheter des compléments alimentaires bio-humeur et fatigue et un spray Rescue pour régler ma mauvaise humeur et ma fatigue? Allons-nous nous transformer en monstres pour préserver notre espace mental et nous offrir du repos en cette étrange période? Pourquoi j'ai une colère viscérale contre les riches en Porsche Cayenne qui mangent du fromage? J'attaque par le bleu ou le blanc? Pourquoi Martine Vassal est-elle une bordille? Pourquoi je lutte parfois contre un troupeau de brebis? Est-ce que le pire est à venir? Pourquoi j'ai envie de cracher par terre quand un groupe de cyclistes avec des vélos à 4000 euros, te coupe ton troupeau. Est-ce qu'on est condamné en vieillissant à un individualisme grandissant? Quelle est la consistance du temps? Pourquoi suis-je invisible à certains yeux? As-tu un exemple? Pourquoi suis-je invisible à certains yeux? As-tu un exemple? Pourquoi j'ai un frisson dans le dos quand j'apprends le suicide d'une militante LGBT égyptienne à la radio pendant la traite des brebis? Est-ce que la petite Shaima va me reconnaître avec le masque? Pourquoi je dis à tout le monde que j'ai de très bonnes conditions de travail alors qu'elles sont normales? C'est quoi le désir? Tu sais désirer avant même d'avoir touché? Pourquoi toutes ces questions me viennent à l'esprit alors que je suis en train de mettre des grands coups de débroussailleuse dans des ronces et des trucs qui piquent? Est-ce que dire « tout le monde fait tout », ça veut pas dire que personne fait rien? Pourquoi, ici, je n'ai jamais rencontré quelqu'une qui ramasse les fraises, des cerises ou les tomates dans les champs, par exemple? Dans mon milieu, on est hyper à cheval sur l'idée de « mon corps m'appartient ». Mais comment on deal avec le fait que les énergies des autres nous traversent tout le temps? Comment rendre nos villes plus viables? Pourquoi certaines personnes étaient plus heureuses en confinement? Pourquoi certains exploiteurs arrivent à dormir en faisant venir leurs Espagnols, leurs Tunisiennes, dans les champs, malgré la crise sanitaire? Alors, cette recherche de maison? Dans quel monde vivons-nous pour dealer autour des armes de la police? Taser ou clé? Pourquoi on demande plus souvent la justice pour les morts que pour les vivantes? Pourquoi les infirmières sont tabassées alors qu'il y a quelques semaines, elles étaient applaudies? Les poétesses se font-elles plus nombreuses? My skin is black. My arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My skin is tan.
is fine. My hips invite you, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing.
Mardi dernier, 30 juin, au pied de la gare Saint-Charles, il y a eu une action-cérémonie questionnant la présence de statues à la gloire du colonialisme à l'accueil des arrivants à Marseille. Et lors de cette action-cérémonie, il y a eu des prises de parole, dont voici un texte. Bonne écoute.
Je peux relire une partie d'un des discours qui a été lu. Donc, je commence. Alors, quel est l'impact de tels statues dans l'espace public? Doit-on encore tolérer que dans la représentation de l'apport des colonies et d'Asie et d'Afrique, nous n'ayons que des femmes nues, avec des enfants et quelques denrées dites typiques? Combien de temps doit-on le tolérer encore? Quand doit-on espérer que le regard officiel, car quand une représentation est ancrée dans la pierre et est mise à l'entrée de la ville, on peut naturellement considérer que cela est du discours officiel et qu'il est questionné, re-questionné et non pas ignoré et laissé en place par flémardise intellectuelle, par omission, par manque d'envie et de motivation pour se pencher sur son propre passé et l'expliciter aux générations d'aujourd'hui que nous sommes, ou aux plus jeunes que nous, pour tout simplement nous dire que nous comptons, que nous existons, que notre histoire n'est pas niée ni piétinée au quotidien. Certaines personnes iront dire que ce ne sont que des statues, que ce n'est pas important et que de toute façon, personne ne les regarde. Mais si nous avons pris l'habitude de cesser de les regarder, c'est que nous savons, de manière inconsciente, que ces statues ne sont pas pour nous, ou pire, dans ce cas précis, qu'elles sont une insulte à des histoires qui peuvent nous être personnelles et qui sont en tout cas collectives. Place d'Aviel, devant l'Intercontinental, il y a une statue dure, mais c'est un véritable hommage à la souffrance qu'ont vécu les personnes dans les camps. C'est un corps nu et allongé lui aussi, mais mourant et souffrant dans une souffrance extrême. Passer devant cette statue, pour toutes les Marseillaises, on le sait, ne peut laisser indifférent et marque l'esprit. Cela prouve le pouvoir de la sculpture dans l'espace public à nous atteindre directement et à inscrire durablement dans nos pensées une histoire, un moment que nous ne devons pas oublier selon le discours officiel, car dans l'espace public est installé avec des fonds publics. Ici, donc à la gare Saint-Charles, au pied de la gare Saint-Charles, la statue a été réalisée par Louis Bottinelli, sculpteur, fils de sculpteur du sud de la France, qui a répondu à un appel d'offres et en est sorti vainqueur. Elles furent installées en 1925 et inaugurées par le maire de la ville et le président de la République en 1927, après la deuxième exposition coloniale de Marseille qui avait eu lieu en 1922. Si l'on regarde ces statues, doit-on déduire que ce que nous ne devons pas oublier, c'est que les colonies d'Afrique et d'Asie regorgent de femmes dont on peut jouir des corps, des enfants soumis et corvéables, des identités lissées et toutes similaires car résumables en une femme par continent, quelques denrées et artisanats traditionnels, des animaux symboles de fertilité. Ce qui est frappant, c'est que ce cliché n'est pas très éloigné de celui qui est encore dominant aujourd'hui. Exotisme, traditionnalité, beauté curieuse et vase de poterie. Il est bien plus facile de parler de colonies d'Afrique ou d'Asie que de nommer les pays. Peut-être aimerions-nous qu'il y ait des noms de ces pays qui ont été envahis par la France et qui ont enrichi, nourri, fourni en main-d'œuvre une ville comme Marseille. Le Cambodge, le Vietnam, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Soudan et tant d'autres. Mettre leur nom sur les plaques commémoratives, leur nom actuel, et non pas de vagues raccourcis du passé qui tendent à essentialiser dans nos esprits l'idée de lieux réels, de peuples réels que sont les peuples de ces pays. Mieux comprendre notre passé commun est une nécessité pour pouvoir être ensemble. Les mémoires doivent être respectées. Une citation de Karfa Diallo, fondateur de l'association internationale Mémoire et Partage, le 24 juin à Bordeaux. C'est l'incapacité à mettre en lumière ce passé qui maintient le racisme et l'impunité de la police, ou l'impunité de ceux et celles qui prennent les décisions dans l'emploi ou le logement basés sur des critères physiques et le déni des Français et Françaises qui sont noirs, asiatiques ou arabes. Certes, Bordeaux et Nantes ont un passé direct avec la traite des esclaves, dont ils étaient les plus gros ports en France et les villes qui se sont le plus enrichies sur ce commerce. Mais Marseille entretient aussi un lien très fort avec les colonies au XIXe, dans un passé plus récent donc, lorsque la France avait annexé le Cambodge, l'Algérie, le Soudan, le Niger et tant d'autres encore, en faisant des magasins gratuits, des greniers, des ressources inépuisables de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous nous demandons où est le respect à apporter aux exploités de cette histoire quand on voit des statues dégradantes à ce point à peine sorties du train. Elle nous montre très bien ce que pensait le colon, le bourgeois français du début du siècle, avant les indépendances administratives des dites colonies. Elle nous explique une partie de l'histoire, la partie des puissants de l'époque, qui exprimaient sans complexe leur dédain et leur suprématisme. Aujourd'hui, cependant, nous pensons qu'elles ne peuvent plus rester dans l'espace public et qu'elles auraient plus leur place au musée, ou ailleurs en tout cas, en étant contextualisées comme nous le faisons aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi Marseille n'ouvrirait pas un musée dédié à son histoire commerçante et donc coloniale ? Ou pourquoi les musées existants n'utiliseraient pas leurs fonds, leurs ressources pour donner de l'espace de façon permanente à cette histoire si omniprésente dans la ville, en se renseignant auprès des nombreux acteurs et actrices de cette ville qui sont des personnes concernées et érudites en la matière. Nous en appelons donc à ces musées à réfléchir, en particulier le MUCEM, qui, si l'on lit bien son titre, le Musée des civilisations en Méditerranée, nous fait passer un message étrange et ne nous parle pas de tout. Les marchandises apportées des colonies, les corps travaillant de gré et surtout de force, n'ont-ils pas tous transité par la Méditerranée ? L'histoire de Marseille et de sa relation aux colonies a beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, mais encore faut-il qu'elle soit reconnue et enseignée. L'immense richesse de cette ville a été engrangée par les colonies. Par cette cérémonie, nous voulions affirmer que nous n'oublions pas ce qui s'est réellement passé et que nous ne voulons pas que l'histoire s'écrive par les seuls vainqueurs, les seuls oppresseurs qui décideraient de la définition des pays et des peuples qu'ils ont envahis, pillés et asservis. Ça ne peut être aussi simple et réducteur.
C'est une immersion totale, une bascule brutale. dans un chaos monumental. Mais où sont-elles, les couleurs pastel, dans ce navrant cocktail de béton et de métal? Et l'ennui mortel, comme une maladie mentale, te martèle et te rappelle qu'il est inutile, voire infantile, de rêver à terre plus fertile ou sentimentale. Et les sentinelles sont matinales, comme à leur accoutumée, peu maternelles. Leur fureur est infernale, et elles peuvent être fières d'elles. Leur impunité semble éternelle, aussi sans pitié que sans piternelle. Comme une berceuse vicieuse ou une ritournelle. Des sirènes bleu ciel, dans un bruit démentiel, rythme le balai des gilets pare-balles. Un avertissement pour qui refuse docilité et asservissement. Le remboursement d'une dette disproportionnée contractée par ceux que l'on nomme forcenés. Forcément assommé dans le ciment et comme sommé de subir son sort sans ressentiment. J'ai assassiné ma sensibilité et puis poussé mon premier rugissement.
La race est pourchassée comme le fâcheux terme. Sois pas surpris, j'ai beaucoup appris, Ma race est pourchassée comme le pachyderme. Ne sois pas surpris, j'ai